Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, j'ai invité une Montpelliéraine, comme souvent. Mais nous allons partir ailleurs, en France et dans bien des pays, pour découvrir un phénomène peu connu, quoique inquiétant, les multiples techniques juridiques pour clouer le bec à ceux qui informent, révèlent, alertent ou dénoncent. Mon invité a écrit un livre intitulé « Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG ». Elle s'appelle Sophie Lemaître. Sophie Lemaître, bonjour. Vous êtes docteur en droit, actuellement chercheuse indépendante. Depuis une quinzaine d'années, vous travaillez sur les questions de corruption et d'environnement. Vous êtes penché sur les flux financiers illicites, sur la criminalité environnementale. Vous avez travaillé notamment à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et pour Sherpa, une association qui lutte contre les crimes économiques et défend les victimes de la mondialisation. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avant que vous nous démontriez comment les médias et les ONG sont bâillonnés, bref détour, comme d'habitude dans cette émission. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, le lieu auquel je suis particulièrement attachée, c'est l'Écusson.
Oui.
Moi, je suis arrivée à Montpellier quand j'avais 12 ans et j'ai quitté Montpellier à 20 ans. Et de ces 20 dernières années, en fait, j'ai habité dans 4 pays étrangers. Et j'ai beaucoup, à chaque fois que je reviens à Montpellier, j'adore me balader dans les rues de l'Écusson parce que c'est piéton, parce qu'il y a plein de petites places, des fontaines. On a énormément aussi de cafés, restaurants, de boutiques avec des artisans. Et c'est vraiment unique, en fait. En ayant vécu autant à l'étranger, je me suis rendu compte de cet aspect très agréable qu'on a dans la ville. Et puis, j'aime beaucoup me balader aussi à la découverte et à la recherche de street art. J'ai souvent le nez levé quand je me balade dans les rues de Montpellier. Donc, c'est vraiment un lieu que j'adore.
Il faudra qu'on fasse ça un jour, qu'on fasse une émission consacrée à une balade découverte de street art à Montpellier. Alors, on en revient au sujet qui nous amène au prédame face à vous. Donc, revenons-en à votre livre intitulé « Réduire au silence ». Sophie Lemaître, qu'est-ce qui vous a conduite à choisir ce sujet? Quel était votre objectif?
Comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que je travaille sur les questions de corruption. Et quand on travaille sur ce sujet-là, en fait, dans plein de pays, c'est un sujet qui est sensible. Et si vous vous enquêtez sur le phénomène de corruption, vous pouvez, dans certains pays, risquer votre vie. Mais il n'y a pas que ces menaces-là, il y a aussi le risque d'être poursuivi en justice. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui étaient ciblées par le droit. Et je me suis rendu compte que ce phénomène s'accentuait au fil des années. Et j'ai eu envie de le documenter parce que finalement, c'est une partie qui est très peu visible. Les attaques par le droit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien. Et peut-être que parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a peu de gens qui savent qu'en France, il y a eu des journalistes qui ont été placés en garde à vue parce qu'ils n'avaient fait que leur travail, c'est-à-dire couvrir des actions de désobéissance civile, par exemple, ou simplement nous informer sur le fait que des armes françaises soient utilisées par l'Égypte potentiellement contre des civils. Donc ça, c'est des choses qui m'ont particulièrement marquée et j'ai eu envie, en fait, de décrypter ces différents mécanismes pour qu'on soit plus nombreux à nous mobiliser pour défendre la liberté de la presse, notamment.
Donc, allons plus avant dans le décryptage. Un mot d'abord sur la manière dont j'ai perçu, reçu le livre. C'est un essai très fouillé sur des questions, vous l'avez dit, principalement juridiques, mais il est tout à fait accessible. C'est pas un livre destiné, je veux dire, à des experts ou des professionnels. C'est une alerte méthodique et démonstrative à caractère politique. Dans son dernier chapitre, on va dire un mot, c'est un manuel de protection et de riposte. Et donc, ce livre, il traduit un fort engagement de votre part, mais contrairement à ce qu'on constate quelquefois, pas aux dépens de la solidité des informations. Il s'appuie notamment sur plus de 600 sources. Alors, on ne verra que les points saillants de ce livre, mais allons-y. Vous allez nous dire comment des gouvernements, des entreprises, des pouvoirs mènent une guerre par le droit. Alors, quels groupes, quelles personnes sont ainsi visées ?
Bien, on a tout d'abord les journalistes. Ce sont les premiers à être ciblés parce que ce sont eux qui nous informent sur des sujets d'intérêt public. La corruption, bien sûr, l'environnement, la santé, la précarité, etc. Mais on retrouve aussi des chercheurs qui vont être ciblés par des entreprises du fait des éléments qu'ils publient quand ils nous alertent sur l'utilisation de pesticides, par exemple. Mais également les associations, les lanceurs d'alerte. En fait, finalement, toute personne qui va s'exprimer publiquement sur un sujet d'intérêt public et qui va déranger des intérêts économiques et politiques puissants.
Si on va jusqu'au bout, ça peut même être un simple citoyen qui s'exprime publiquement sur tel sujet.
Oui, tout à fait. On l'a vu, en fait, des personnes en manifestation avec des pancartes qui ont pu par la suite être poursuivies parce qu'ils avaient fait une pancarte humoristique qui ciblait un député. Le député a agi en justice en représailles, en fait, de l'expression publique. Donc, tout à fait.
Alors, dans ce livre, bon, vous identifiez un grand nombre de techniques, de méthodes, de tactiques. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ? Et puis, on s'attachera à regarder de plus près certaines.
La partie émergée de l'iceberg, ça va être tout ce qui est agression physique, agression verbale. On va aussi avoir des gardes à vue, de la détention provisoire, de la surveillance économique, ça peut être par des entreprises, mais aussi de la surveillance au niveau des forces de l'ordre avec, par exemple, des logiciels espions qui vont être utilisés. Et on l'a aussi en Europe, hein, en Italie, par exemple, on a appris que le gouvernement avait utilisé un logiciel espion pour espionner des journalistes. Et puis, on va retrouver tout ce qui est menaces de mort, cyberharcèlement, etc. Donc ça, c'est des menaces très visibles. Je pense, par exemple, à la journaliste bretonne Morgane Large, qui a vu les roues de sa voiture déboulonner à deux reprises à la suite.
Elle travaillait sur les dérapages de l'agro-industrie en Bretagne, hein, notamment. Et c'est ce qui a valu cette attention particulière d'un certain nombre de responsables agricoles locaux. Hein.
Oui, mais on peut aussi parler du Midi Libre, par exemple, qui en janvier a vu son siège brûler à la suite d'articles sur les huîtres. Donc ça, c'est la partie vraiment visible. Et puis après, il y a une partie qui est invisible, et c'est la manière dont le droit va servir de répression, et c'est vraiment ce que je décrypte dans le livre.
Alors, on va regarder ça de plus près, hein, comment le droit est utilisé pour réduire le silence dans les personnes dont vous avez parlé, notamment dans ce qu'on appelle les procédures bâillons. Alors, on voit l'image. De quoi s'agit-il ? Quel est ce procédé ? Et comment, quelques exemples à appui, ça se traduit ?
Alors, les procédures bâillon, on parle aussi de procédures en justice abusive. En fait, ce sont donc des procédures en justice qui prennent l'apparence d'une procédure classique, normale, mais qui n'ont pas en fait pour objectif de réparer un préjudice, de gagner un procès, mais en fait d'intimider, de faire peur, de dissuader la personne qui est poursuivie, mais aussi d'envoyer un signal aux autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, à quoi ça ressemble ? Eh bien, en fait, la plainte qui va être déposée, par exemple, par une entreprise, par une personnalité politique ou bien par un milliardaire, eh bien, elle va faire suite à une forme d'expression publique sur un sujet d'intérêt public. Un article, notre conversation là aujourd'hui à la radio, ou bien une œuvre d'art. Et sur un sujet d'intérêt public, c'est la corruption, l'environnement, la santé, comme je citais un peu tout à l'heure. Et puis après, on va regarder en fait un peu des indicateurs pour savoir si on est face à une procédure bâillon. Est-ce qu'il existe un déséquilibre du rapport de force entre l'entreprise qui est poursuivie et par exemple le journaliste qui est poursuivi ? C'est-à-dire un déséquilibre dans le rapport de force, on va regarder par rapport par exemple au chiffre d'affaires de l'entreprise, à sa place dans le paysage économique, politique. Est-ce que c'est le journaliste qui est poursuivi à titre individuel ? Est-ce que c'est le média ? Est-ce que c'est le média et le journaliste ? Est-ce qu'il y a une multiplication des procédures devant différents tribunaux ? Je pense par exemple au média La Lettre qui est, à la suite d'un article, est publié et poursuivi par la Monnaie de Paris, à la fois en diffamation au pénal et pour violation du secret des affaires devant le tribunal de commerce. On regarde un petit peu si, à la suite de la plainte, il y a eu une campagne de dénigrement dans les médias. Est-ce que les arguments sont fondés? Ou encore, est-ce que la personne qui poursuit fait œuvre de manœuvre dilatoire? Donc, par exemple, est-ce qu'elle va essayer de reporter sans arrêt l'audience, voire va se désister la veille ou le jour même du procès? Donc, il y a encore d'autres indicateurs, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est cette idée que d'épuiser moralement, financièrement, émotionnellement l'autre et non pas nécessairement de gagner le procès.
Très bien. Alors, vous avez évoqué au passage le secret des affaires, donc ça aussi c'est un prétendu secret des affaires dans l'Union européenne et notamment et en France, qui est un des principaux obstacles dans la recherche d'informations économiques et financières. Là aussi, il y a un point d'appui juridique, une directive qui a été votée, relayée en France. Comment ça se passe là aussi? Comment ça constitue un des obstacles dans le chemin vers la recherche de l'information?
Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'en termes de procédure Bayon, les procédures qui sont le plus intentées, c'est en diffamation, mais qu'il y a d'autres fondements qui sont utilisés. Et la violation du secret des affaires, c'est l'un des fondements qu'on commence à voir utilisé. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une directive européenne qui vise à protéger le secret des affaires, puisque pour les entreprises, il y a des secrets qui ne devraient pas être divulgués au risque de porter atteinte à leur fonctionnement. Ce qu'on peut entendre. Mais la manière dont le secret des affaires est défini, en droit européen puis aussi en droit français, eh bien, c'est défini de manière extrêmement large et qui va couvrir en fait des choses qui ne relèvent finalement, à mon avis, pas du secret des affaires, comme une stratégie de communication. Et là, le problème avec le secret des affaires, c'est que ça peut porter atteinte en fait aux enquêtes que les journalistes vont pouvoir mener, parce que ça couvre énormément finalement de documents au sein de l'entreprise, et ça peut aussi porter préjudice aux lanceurs d'alerte qui révéleraient des informations et des pratiques qui posent problème. Mais en droit français, il y a une exception, et donc le secret des affaires ne s'applique pas à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté académique. Et malgré cela, il y a quand même des procédures en France qui ont été intentées au nom de la violation du secret des affaires.
D'accord. Vous avez cité, par exemple, quand on préparait l'émission, des informations sur le plan de communication d'une entreprise qui considérait que c'était un secret qui méritait d'être protégé en tant que tel.
Oui, alors il y a un cas qui a été très marquant, c'est celui du média reflet.info qui en fait avait publié des articles sur la base de données qui avait été piratée de l'entreprise Altice. Et à la suite de l'article de reflet.info, Altice a déposé plainte pour violation du secret des affaires et a demandé au tribunal d'ordonner l'interdiction pour reflet.info de publier des articles sur la base de ces données qui avaient été piratées. Et en première instance, le tribunal y a fait droit. Donc, reflet.info a été interdit de publier. Et en France, en fait, la censure préalable, c'est-à-dire avant que l'article ne soit publié, est interdite. Donc,
elle n'existe pas, je pense qu'il faut le dire clairement.
Elle n'existe pas depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881. Et en appel, eh bien, ça a été le verdict a changé. Et bien évidemment, reflet.info a pu publier à nouveau des articles, mais ça a posé vraiment des conséquences, ça a un impact important, parce que potentiellement c'est de l'information que nous, citoyens, nous n'avons pas accès.
On voit bien le mécanisme là, hein. C'est-à-dire l'entreprise concernée ou le pouvoir politique concerné va chercher quelque part dans le droit quelque matière à se tourner vers les personnes qui révèlent des informations, quoi, en essayant d'utiliser au mieux cette arme. Avec succès, parfois, mais avec un succès dans d'autres, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que cette démarche-là, elle a une certaine efficacité aux yeux de ceux qui la lancent, mais il peut y avoir des freins, je dirais, à cet usage inconsidéré du droit.
Pour la personne qui poursuit, l'avantage, c'est pas tant de gagner, elle gagne simplement par le fait qu'il y a eu la procédure, parce qu'une procédure en justice, ça coûte cher, et pour un petit média, je pense par exemple au média Le Point, avec un G qui a été poursuivi en justice, eh bien, il n'y a pas un énorme budget, et donc payer 2000, 3000, 4000 euros de frais de justice et d'honoraires d'avocat, c'est énorme. Donc rien que ça, même si à la fin la personne qui poursuit perd, elle a quand même gagné parce que le média ou l'association ou le lanceur d'alerte, ben pendant ce temps-là, a dû débourser de l'argent pour payer son avocat les frais de justice, mais aussi n'a pas pu travailler. Il a dû passer son temps à préparer sa défense, donc plusieurs dizaines, centaines d'heures selon les dossiers. Et donc, pendant ce temps-là, ne peut pas mener d'enquête. Et donc, nous ne sommes pas informés sur des sujets importants, la corruption, l'environnement, la pollution, etc. Donc ça a un impact vraiment conséquent, oui.
Donc c'est que le média, il est à la fois affaibli et pour partie, ou les journalistes concernés aussi, discrédité. En gros, comme il y a un flou sur l'issue de la procédure, bon, ça introduit un doute, je dirais, sur la qualité, la solidité du travail de ce média. Ça peut être ça aussi auprès de l'opinion.
Alors, c'est pas tant qu'il y a un flou sur la procédure, c'est plutôt que la personne qui vous poursuit, que ce soit l'entreprise ou une personne à titre individuel, elle va communiquer sur les réseaux sociaux, dans les médias, qu'elle a poursuivi tel ou tel média. Mais le grand public va avoir entendu le fait que le média est poursuivi, mais n'aura pas nécessairement entendu que par la suite, le média a été relaxé. C'est et c'est ça le problème, c'est que donc on a le début de l'histoire, mais le grand public n'entend pas la fin de l'histoire, qu'en fait le tribunal a considéré que l'enquête était sérieuse, que le journaliste a fait un très bon travail et qu'il n'y a pas de faute. Et ça, on n'entend pas. Et ça pose problème dans la confiance entre les citoyens et la presse.
Très bien, on voit bien ce phénomène et les effets que ça produit. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les différents effets là, dans ce genre d'affaires, personnelles, psychologiques, financiers. Donc, ça aussi, c'est une chose qui n'apparaît pas au premier coup d'œil, mais qui quand même permet de bien comprendre l'impact de ce genre de méthode sur des personnes et des groupes de personnes.
Oui, c'est extrêmement stressant parce que ces procédures, elles vont durer plusieurs années. Donc, vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous ne savez pas si vous allez être condamné ou pas, si vous allez devoir payer des dommages et intérêts. Je pense par exemple à l'association Bloom qui est actuellement poursuivie en dénigrement et on lui réclame 600 000 euros de dommages et intérêts. Donc, c'est conséquent pour une association. Et puis, si on n'a pas l'argent, je pense par exemple aux médias Splan, médias bretons, qui avaient fait aussi l'objet d'une procédure en justice, eh bien, ils ont dû faire appel à la générosité du public pour pouvoir faire face à leurs frais de justice. Et très rapidement, ils ont réussi à lever 60 000 euros, donc c'est quand même important. Ça montre qu'il y a une certaine conscience de l'impact de ces procédures et des conséquences qu'elles peuvent avoir. Et au final, la procédure a été annulée. Mais oui, elles ont un coût financier important et un coût humain aussi, parce que si vous êtes poursuivi en diffamation, vu la manière dont la procédure est faite, vous êtes automatiquement mis en examen, vous allez après avoir le statut de prévenu, donc c'est quand même, on a une image dans l'imaginaire collectif, la mise en examen, le statut de prévenu, c'est pas positif. Donc c'est aussi pour la personne qui porte ça, c'est extrêmement stressant de se dire, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver à mon média, est-ce qu'on va fermer. Je donne un autre exemple, le média spécialisé Warning Trading a été condamné pour dénigrement devant le tribunal de commerce. Il a été condamné à verser 36 000 euros de dommages et intérêts. Le média n'a pas ce montant-là. Donc, elle va se poser la question, est-ce qu'il ne va pas devoir fermer ? Donc, concrètement, ces procédures en justice, elles peuvent conduire des médias à fermer leurs portes. Donc, c'est un vrai problème.
Alors, poursuivons, parmi les libertés d'expression qui sont non seulement menacées mais atteintes, figurent les libertés associatives. Alors, sur quoi s'appuient des préfets ou des maires pour intimider les associations et les contraindre au mutisme ? Je fais référence notamment, mais vous allez expliquer ça aux auditeurs, au contrat d'engagement républicain qui sert de point d'appui juridique là, à ces atteintes.
Oui, on voit, il y a deux techniques en ce moment qui sont principalement utilisées. La première, c'est le contrat d'engagement républicain qui nous vient de la loi dite séparatisme de 2021. La loi séparatisme, brièvement, elle avait pour objectif de lutter contre l'entrisme ou l'islamisme radical. Et en fait, à l'intérieur de cette loi, on a inséré le contrat d'engagement républicain qui oblige en fait les associations qui demandent des subventions publiques
à... Locales ou nationales.
Oui, c'est toutes les associations de loi 1901 qui demandent des subventions, en fait, à respecter les 7 engagements qui sont contenus dans le contrat d'engagement républicain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a de nom que... c'est un contrat, mais ça n'a que le nom de contrat.
C'est un contrat qui n'est pas contractuel, en quelque sorte.
Oui, c'est un contrat qui n'est pas négocié. Exactement,
oui.
C'est un contrat qui n'est pas négocié. C'est juste une case qu'on coche à la fin d'un formulaire de subvention. Et en fait, les engagements sont formulés de manière très large. Et donc, ça ouvre la porte à de l'interprétation. Un exemple, il y a dans l'engagement le fait de ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi. Donc est-ce que par exemple une action de désobéissance civile, est-ce que ça va rentrer dans ce critère-là? Et donc en fait, le contrat d'engagement républicain, si on ne le respecte pas, la collectivité peut demander à l'association de rembourser la subvention. Ça peut être aussi utilisé pour dire non, cette année, nous ne vous subventionnons pas. Et malheureusement, le contrat d'engagement républicain a été utilisé à plusieurs reprises pour dire aux associations, sur celles qu'on juge trop militantes, notamment des associations environnementales, mais pas que. Je pense aussi à la compagnie de théâtre Arlette Moreau du côté de Bordeaux, ou bien aux médias associatifs Canal Tizèf en Bretagne, qui ont perdu leur subvention du fait de la mobilisation du contrat d'engagement républicain. Si c'est utilisé de manière officielle, les associations peuvent contester en justice. Là, le problème, c'est que souvent, on leur dit de manière officieuse, vous n'avez pas respecté le contrat d'engagement républicain.
C'est insidieux, il n'y a pas de pièce permettant de prendre appui pour engager une plainte ou une procédure.
Exactement, ça va être beaucoup plus difficile pour l'association de contester devant le tribunal administratif, d'autant qu'il n'existe pas de droit à la subvention. Et puis le deuxième phénomène qui est inquiétant et qui a été notamment documenté par l'Observatoire des libertés associatives, par Antonio Delfini et Marie Garmadi, la neutralité est mobilisée pour s'attaquer aux associations qui se sont exprimées dans l'espace public. Je pense au planning familial, par exemple, qui a reçu dans le Calvados un courrier de la CAF à la suite de prises de position publiques du planning familial. En fait, on a cette idée, enfin en tout cas certaines collectivités, certaines mairies ont cette idée que la neutralité s'applique aux associations qui reçoivent des subventions publiques.
La neutralité du service public, qui est de règle, devrait s'appliquer à des tiers au prétexte qu'ils reçoivent des subventions publiques. C'est ça, c'est le raisonnement tordu là, que vous évoquez.
Exactement. Alors qu'en fait, la neutralité ne s'applique que dans des cas très, très spécifiques, notamment si on est dans une commande. Mais ça ne s'applique pas quand on reçoit des subventions publiques. Mais du coup, ça a un effet dissuasif parce que des associations vont se poser la question, est-ce que je vais travailler sur tel sujet ou m'exprimer sur tel sujet si par la suite, je reçois des rappels à l'ordre? Et d'ailleurs, l'Observatoire des libertés associatives a recensé une vingtaine de cas où il y a eu des lettres, des rappels à l'ordre, à la neutralité. Et donc, ça risque d'avoir un effet d'autocensure et un impact à nouveau sur nous, citoyens, parce que ces associations, elles ont un rôle fondamental. Elles nous accompagnent, elles nous apportent de l'information, elles sont là au quotidien. Et si on les empêche d'agir, c'est nous qui en paierons le prix.
Bien sûr. Alors, on y vient, hein. L'aspect le plus frappant, le plus alarmant à mes yeux de votre livre, la conclusion générale que vous tirez, vos mots sont forts, vous parlez de destruction de l'espace civique en France. Alors, en quoi les méthodes, le cumul de ces méthodes que vous décrivez constituent une menace essentielle à la fois pour la démocratie et pour l'état de droit ?
Mais en fait, ce sont tous les piliers de la démocratie, de l'état de droit qui sont attaqués. Je vais parler que de la France. Hein. Dans le livre, je parle d'autres pays, mais là, on va parler que de la France. Eh bien, on l'a déjà dit, la liberté de la presse en France est menacée de plein de manières différentes. Par exemple, avec la concentration des médias, avec les attaques sur l'audiovisuel public, la situation économique extrêmement fragile des médias, les poursuites en justice. Mais on a également la liberté, les libertés associatives qui sont menacées. On a donné deux exemples. On a les chercheurs qui sont ciblés, notamment les chercheurs en sciences humaines et sociales. On va les appeler les traités d'islamo-gauchistes, etc. Donc on porte un coup à la science avec des coupes budgétaires importantes. On a aussi la justice qui est attaquée, notamment la justice financière, comme le parquet national financier.
Les magistrats, autrement
les
dit.
Les magistrats,
vous avez évoqué les avocats, mais il y a aussi les magistrats.
Exactement, qui vont être ciblés. On l'a vu avec la condamnation en première instance de Marine Le Pen et du FN dans l'affaire des assistants parlementaires du européen. Voilà, il y a eu des attaques sur les magistrats, mais aussi lors de la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy. Ça a amené à des menaces de mort sur les magistrats et on a dû les placer sous protection policière. Et puis, on voit aussi que, par exemple, le gouvernement Emmanuel Macron a placé des preuves à la tête du Conseil constitutionnel, à la tête de la Cour des comptes. On voit de nombreuses coupes budgétaires, comme je disais. Tout ça, ça vraiment sape finalement notre démocratie et l'état de droit. Et je ne parle même pas en fait des dizaines de lois qui ont été adoptées ces 10 dernières années et qui portent atteinte à nos libertés fondamentales sous prétexte de lutter contre le terrorisme, de lutter contre le crime organisé, qui sont des buts louables, mais qui en fait sont par la suite détournés pour cibler celles et ceux qui nous informent sur des sujets d'intérêt public.
Ouais, notamment la liberté de manifester, okay. Où on a
Exactement.
Assisté à un certain nombre de dérapages et de dérives. Alors, j'ai l'œil sur la montre, nous avons encore quelques minutes. Un petit mot, vous l'avez évoqué, le livre, on s'est consacré dans cette mission à la France, mais bien entendu, le livre couvre largement la situation dans un grand nombre de pays, y compris pas seulement les dictatures où on peut comprendre, on peut savoir arriver facilement à la conclusion que ça ne va pas, mais également dans un certain nombre de pays démocratiques, en Europe et ailleurs, où ces mêmes phénomènes que vous avez décrits se produisent, et voire s'amplifient.
Oui, on a cette idée que non, en fait, tout ce qui se passe, les atteintes à la liberté de la presse, etc.,
c'est
pas chez nous. Alors que non, en fait, c'est bien chez nous. Et au sein de l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui sont sur une pente glissante vers des régimes autoritaires. Et on a juste à tourner la tête vers l'Italie. Depuis que Giorgia Meloni est au pouvoir, donc elle a été élue en 2022, il y a de plus en plus, en fait, d'atteintes à la liberté de la presse, notamment avec une multiplication des procédures Bayon. J'ai aussi mentionné un logiciel espion qui a été utilisé contre des journalistes. Elle s'est attaquée à la justice. Elle a notamment fait des réformes pour décriminaliser certaines infractions dans le domaine de la lutte contre la corruption. Donc ça, c'est aussi ouvrir la porte grand aux pratiques de corruption, etc. Elle a nommé des proches au sein de l'audiovisuel public et s'est documentée. Il y a du coup des interférences, des ingérences politiques au sein de l'audiovisuel public. Ça a un impact du coup sur les programmes qui sont diffusés à la télé et à la radio. Et puis les associations qui aident les migrants sont particulièrement ciblées, et sans compter en fait les lois sécuritaires qui visent à empêcher les actions de désobéissance civile. Et en fait tout ça, ça vient grignoter petit à petit les libertés des citoyens.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission avec une dernière question, je l'ai évoqué au début, c'est le côté, je vais dire, info-pratique, outil, qui constitue le dernier chapitre du livre. Alors, quel était votre objectif ? Et à grand trait, qu'est-ce que les auditeurs peuvent trouver dans ce chapitre-là ?
Le portrait que je dresse dans le livre, il est quand même sombre.
Donc Pour le moins.
Je ne voulais pas que quand on referme le livre, on soit démunis et on se dise « Mon Dieu, c'est tellement grave ce qui se passe, je ne peux rien faire. » Donc l'idée, c'était d'apporter des idées pour pouvoir agir, mais aussi savoir un peu comment se protéger si nous-mêmes, on est ciblés. Donc il y a trois boîtes à outils. La première, c'est comment essayer de limiter le risque des procédures bâillons. La deuxième boîte à outils recense les organisations qui peuvent nous accompagner financièrement, juridiquement, si on est poursuivi ou si on fait l'objet de menaces. Et la troisième boîte à outils, c'est autour de quels sont mes droits en cas de perquisition ou de garde à vue, parce que malheureusement, on le voit de plus en plus, ce risque est élevé. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir agir, pouvoir se défendre. Et la dernière boîte, c'est une boîte à idées avec 10 propositions pour, une fois qu'on referme le livre, on puisse faire des choses, peu importe qu'on ait énormément de temps ou pas, beaucoup de moyens financiers ou pas, on peut tous faire à notre échelle des actions pour défendre la liberté de la presse et la liberté d'association.
Le message est lancé. Alors, Sophie Lemaitre, je rappelle que votre livre s'appelle « Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG ». Il est publié chez l'éditeur Rue de l'Échiquier. Alors, il a reçu le prix Runo van Riebeeck. Les auditeurs connaissent ce magistrat de référence. Le prix a été remis par Transparency International France et Nouvel Obs. Merci à vous, Sophie Lemaitre. Et chers auditeurs, chères auditrices, à la prochaine.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attachés?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.